La libre antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Et j'accueille nos prochains invités. Je dis non parce que vous êtes deux. Emmanuel et Michel, bonsoir. Merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, de quoi voulez-vous témoigner ce soir ?
Eh bien, on est aujourd'hui tous concernés par le dérèglement climatique et on le sera sans doute encore plus à l'avenir.
Bah, surtout
et ce
depuis
soir,
le 22 juillet,
Emmanuel et moi, on aimerait témoigner d'une expérience de 20 ans de vie qui nous a amené à nous interroger sur des solutions concrètes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, plus spécialement dans le bâtiment. Mais alors, on a eu une expérience de vie qui a touché à des choses différentes, le militantisme avec ses joies et ses impasses, la recherche d'autonomie. Avec ses joies et ses impasses, et puis aussi qui nous a amené sur l'écoute des autres. Voilà.
Alors comment elle a démarré cette expérience de vie ? C'était quoi le point de départ ?
Alors le point de départ, c'est... Alors au départ, on n'est pas du tout dans le monde du bâtiment, puisqu'on était prof. C'est d'ailleurs dans un lycée qu'on s'est rencontrés, il y a 20 ans. Moi, j'étais prof de français, Michel de philo. Et puis, ça a été très vite, on a été amis, puis on est très vite sortis ensemble et on s'est mariés, on a acheté une maison, voilà. Et on a acheté une maison près de la plus grande cimenterie d'Europe. Et un an plus tard, on a reçu un courrier de la part de ses voisins cimentiers qui devaient prévenir les riverains qu'ils avaient déposé un permis auprès de notre commune. Alors peut-être que vous l'entendez à mon accent.
Oui, c'est ce que j'allais dire, vous avez un petit accent, mais oui, c'est l'accent belge, non ?
C'était en Belgique,
ah, c'est
voilà.
Ça. Voilà, j'ai reconnu. D'accord.
Et donc, nos voisins cimentiers nous annonçaient qu'ils avaient déposé un permis auprès de notre commune pour pouvoir, alors selon l'euphémisme qu'ils avaient utilisé, valoriser des combustibles de substitution. Donc en cherchant, on a compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'en fait, ils allaient brûler des déchets toxiques et dangereux dans leur four. Voilà.
À côté de vos habitations.
C'est ça, oui. Donc ça nous a évidemment paniqué. On a fait tout de suite des recherches. Et on s'est rendu compte qu'ils brûlaient déjà des déchets depuis 1997. Donc, on aurait pu se renseigner avant d'acheter la maison, mais voilà.
Ils avaient le droit de le faire ?
Oui, oui, on aurait eu le droit de le faire.
Non, pas vous. Vous aviez le droit de vous renseigner, mais est-ce qu'eux avaient le droit de brûler ces déchets toxiques à
côté
de l'habitation ?
Oui, alors les déchets depuis 1997, c'était des déchets dits banals. Et ça, ils avaient aussi, pareil, demandé l'autorisation qu'ils avaient obtenue. Et là, ils voulaient passer à une vitesse supérieure en brûlant des déchets toxiques et dangereux.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils se font pas mal d'argent parce qu'en fait, ils sont payés pour brûler les déchets et donc ils gagnent parfois plus en vendant du ciment. Mais bon, ça
non,
c'était notre
plus en brûlant des déchets qu'en fabriquant
du ciment. Alors ouais. Là, vous vous rendez compte que vous allez habiter à côté d'une usine qui brûle des déchets hyper toxiques pour la santé. Si je vous suis, vous aviez des enfants à ce moment ?
Alors, à ce moment-là, oui, notre aîné avait 10 mois à peu près, je l'allaitais. Et c'est vrai que c'était très angoissant pour moi en tant que jeune maman, parce que dans les différents rapports scientifiques qu'on lisait, etc., je me souviens avoir lu, par exemple, que certains polluants se concentraient dans le lait maternel. Donc, je me demandais si j'étais pas en train d'empoisonner ma fille en l'allaitant, alors que je pensais jusque-là faire la meilleure chose qui soit pour elle. Oui, mais votre question est intéressante parce que c'est vrai que tout de suite, quand on est parent,
on réagit plus rapidement, peut-être.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors du coup, comment vous avez réagi ? Vous avez fait quoi ? Vous avez déménagé ?
Je veux dire, on n'a pas déménagé tout de suite, mais c'est-à-dire que d'abord, on a continué à restaurer notre maison. Et alors, on s'était dit, ben, on a milité d'abord, voilà, pour se dire que nous, on voulait autre chose, voilà. Et aussi, on a continué à restaurer notre maison en se posant plein de questions, quoi. C'est-à-dire qu'on voulait la plus écologique possible. Je me souviens on s'était dit, on va acheter de la terre en big bag, voilà, donc il y avait un big bag qui nous vient, je me souviens, de Turquie, et puis on allait mettre de la terre sur les murs à l'intérieur. Et effectivement, c'était toute une aventure de vie parce que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà de la terre sur les murs du temps passé, quoi. Et donc, c'était une aventure, cette restauration de la maison. Et puis, de l'autre côté, eh bien, nous, on a fait des conférences, on a essayé de sensibiliser.
Ça, vous l'avez fait en restant chez vous. Vous n'avez pas déménagé. Oui. Vous rénovez.
Pas tout de suite. On a combattu, on va dire, 3 ans. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai utilisé le mot combat exprès parce que ça a fini, moi, personnellement, avant Michel, ça a fini par psychologiquement m'atteindre. Je pense que tous les militants ont connu ça à un moment donné dans leur vie, c'est que être contre, c'est fatigant en fait.
J'avais hâte
de passer à une phase constructive et positive.
C'est ça. Je citais Mère Teresa il y a quelques jours dans l'émission qui disait « Je ne vais pas manifester contre la guerre, mais je vais manifester pour la paix ».
Ah oui, ça me parle beaucoup ça.
Voilà. Vous avez transformé ce combat, d'une certaine manière, contre en pour, justement. Comment vous avez fait? Alors, vous êtes revenu à la terre. Visiblement, vous êtes revenu à la terre, dans tous les sens du terme, peut-être.
Oui, mais pas en Belgique, en fait. Alors, dans l'inconscient collectif, même si on est tout à fait conscient que les polluants font le tour de la planète et qu'ils ne restent pas à un endroit, mais dans l'inconscient collectif, quand même, les Alpes, ça reste un endroit associé
pur
à l'air. C'est ça. Et donc, quitte à déménager, bon, c'est vrai que les premières visites qu'on a faites, c'était en Belgique, mais très vite, on a été séduits par un changement radical de vie. Je pense que Michel, comme moi, on était attirés par vivre complètement autrement, hors de cette société de consommation, notamment. C'était des réflexions qu'on avait avec nos élèves, etc. Et donc, on a cherché un endroit dans les Alpes qui nous a plu, un petit village à 1000 mètres d'altitude où on est toujours là aujourd'hui.
Et on est parti à vélo, on a fait 1200 km avec nos deux filles parce qu'entre-temps...
La deuxième
enfant, d'accord. Alors voilà. Vous partez en vélo tous les quatre. Les enfants ont quel âge à ce moment-là?
3 ans et demi et 5 mois la petite le jour du départ.
Ah oui, 5 mois. Donc derrière, dans le siège arrière du vélo?
Oui, c'est ça. Michel avait derrière son vélo une petite remorque à 2 places. Donc l'aînée pouvait être à côté de sa sœur. Ou alors, elle pouvait être derrière moi. J'avais un demi-vélo derrière lequel elle pouvait pédaler aussi l'aînée.
Après, on avait un peu d'argent de la vente de la maison et donc on dormait en chambre d'hôte. Ce n'était pas une aventure, je vais dire. Voilà,
C'est combien de kilomètres de là où vous étiez en Belgique jusqu'au petit village des Alpes qui s'appelle comment d'ailleurs, puisque vous y êtes toujours
Éaure.
Alors, ça fait combien de kilomètres en vélo avec deux enfants?
Alors, on en a fait 1200 parce qu'on a voulu prendre que des voies vertes. Et donc, on a fait plein de détours pour y arriver. Et donc, on l'a fait en presque 40 jours. Donc, on faisait seulement 30 km par jour. Hein. On n'était pas des grands sportifs, mais voilà.
Enfin, quand même, faut quand même. Vous allez au bout de vos convictions, tout de même.
Oui, on peut dire ça.
Est-ce que c'était un voyage initiatique pour vous, ce voyage de Belgique jusque
Absolument.
Dans les Alpes?
Absolument. Alors, c'est très intéressant que vous nous disiez ça, parce que justement, pendant le voyage à vélo, on a vécu un épisode qu'on aime beaucoup raconter parce que c'était vraiment très symbolique de ce voyage initiatique, justement. On avait la possibilité de passer sous un tunnel de 7 km à peu près qui nous évitait de prendre une grande montée, sauf qu'on nous avait dit qu'il n'était pas éclairé. Donc, comme on n'était pas à une aventure près, on y est allé quand même. Et voilà, moi au départ, tout allait bien parce qu'on avait encore la lumière dans le dos, donc on avançait. Mais au bout de quelques centaines de mètres, on s'est retrouvé dans le noir. Et moi, ça m'a complètement pétrifiée. Je n'arrivais plus à avancer. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et je me suis mise à chanter avec ma fille aînée qui était derrière moi. C'est ce qui m'a permis de reprendre des forces. Et j'ai été puisée en moi toute la force que je pouvais pour continuer d'avancer. Voilà, c'est ça, pour quitter cette peur qui me pétrifiait. Et donc, j'ai réussi à avancer. Et puis, quelques kilomètres plus loin, je voyais le bout du tunnel, la fameuse expression. Oui, là, j'ai vraiment
au sens
senti
propre,
ce que ça voulait
figuré,
dire. J'ai été rassurée de voir ce halo lumineux. Et quelques jours plus tard, j'ai beaucoup repensé à cet épisode et je me suis dit, mais en fait, j'ai revécu ma naissance parce que tous les éléments y étaient, le tunnel dans le noir, l'eau, hein, donc l'humidité. Et le fait qu'on ne puisse pas faire marche arrière, il faut avancer. Et voilà, j'ai pensé à tous ces nouveau-nés. Je me suis dit, j'ai sans doute revécu ma naissance. Et c'était très beau de revivre ma naissance symbolique à ce moment-là, alors qu'une nouvelle vie...
Vous attendez, c'est ça. Et alors du coup, comment elle se matérialise, cette nouvelle vie, dans ce petit village des Alpes ?
Alors, on habite dans ce petit village des Alpes. Alors, très vite, on va construire deux maisons. Mais la première, en fait, on l'a construit au départ pour nous. Et puis, on essaye de vivre, je vais dire, on teste pas mal de choses de l'autonomie. Mais surtout, on découvre la construction à partir des matériaux de la nature. C'est-à-dire qu'on va construire avec le bois de la forêt, on va construire avec la terre sur place, on va construire avec des ballots de paille, on va construire quasi sans argent, on va aller jusqu'à couper du chaume dans un champ et on va construire une maison, je veux dire, quasi sans argent. Et puis on va vivre pas mal d'expériences touchant à l'autonomie. Et c'est seulement après qu'on va s'intéresser vraiment à notre fil rouge depuis le début de notre vie, à la question du bâtiment, parce que par la suite, on s'est formé. Il y avait énormément de gens qui venaient à dire que nous, on n'était pas du bâtiment. Moi, j'étais dans la philosophie, donc il y avait plein de gens qui venaient pour cette construction étrange qu'on faisait à partir...
Mais vous arriviez à vivre dedans alors que vous vous êtes formé après ? Comment vous avez su ? C'était instinctif ?
Non, on a d'abord loué une maison. La première maison qu'on a construite, c'était quand même avec des professionnels qui nous secondaient. Donc là, on a appris. Et la deuxième maison, là où on a été plus loin dans l'autonomie, en essayant de tester le sans-argent dont Michel parlait, là, c'est vrai qu'on l'a fait seul, en chantier participatif, avec des gens qui venaient nous aider. Voilà.
Et du coup, aujourd'hui, il y a une communauté autour de vous ? Il y a combien de maisons aujourd'hui à Your ?
C'est pas une communauté, c'est un village classique et on est plusieurs personnes par contre à avoir voulu construire avec des matériaux locaux. Alors tout le monde ne l'a pas poussé à notre extrême en allant couper le bois et le chaume autour. Mais disons qu'on est plusieurs à avoir construit en paille en tout cas et en bois local.
Alors effectivement, par contre, au fur et à mesure, on a créé une association autour où on a eu jusqu'à 6 salariés et on a eu une dizaine de personnes parce qu'on avait des gens en service civique, où on a commencé à de plus en plus à être sensibilisé à la question de la diminution des gaz à effet de serre liée à la question du bâtiment. Mmh. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais la construction et le logement, c'est 33% des gaz à effet de serre, 40% du CO2. Et donc, si on veut limiter le réchauffement climatique, eh bien, y a plusieurs choses à faire. C'est-à-dire que si les matériaux, en fait, pourquoi c'est si élevé ? C'est parce qu'on cuit la plupart des matériaux. On cuit le ciment, mais on cuit aussi plein d'autres matériaux. Et il y a des matériaux qui existent crus. Je veux dire, le bois, toutes les fibres végétales, je veux dire, la pierre, je veux dire, il y a plein de matériaux qui sont crus
qui sont
et qui ne sont pas cuits. Et donc, alors, si on a des bâtiments qui sont très isolés, eh bien, on peut quasi ne pas utiliser de chauffage et pour l'avenir, pas de climatiseur. Ouais, c'est marrant parce que on a appris, moi j'étais complètement étonné, quoi. Vous savez, il y a encore 20 ans, il y a 50% des habitations dans le monde qui étaient en terre crue. Et par exemple...
Seulement 20 ans, c'est pas vieux, hein. Seulement 20 ans.
Oui, seulement 20 à 30 ans, il y avait encore 50%. Mmh. Aujourd'hui, on est plutôt à 30% des bâtiments qui étaient en terre crue. Et je vois cette ville au Yémen où il y a des gratte-ciels qui font 8 étages, qui sont plus de 50 mètres de haut, où il fait extrêmement chaud parce qu'on est en plein désert à Shimbam, et où dans cette ville, eh bien, malgré qu'il fait 45-50 degrés dehors, on ne dépasse pas dans les maisons 25 degrés parce que ça tient vraiment de la fraîcheur. Et vous avez à 1000 km de là la ville de Dubaï qui a été construite en verre et en béton, et où les climatiseurs, sur ces 30 dernières années, ont fait augmenter la température de 6,5 degrés.
À l'extérieur.
À l'extérieur, parce qu'évidemment, quand on met des climatiseurs, on chauffe l'extérieur. Et donc, c'est un peu un symbole de notre monde pour nous, où on se dit que si vraiment on réfléchissait à construire autrement, donc de manière crue, et pas avec des matériaux cuits, si on essaye de réfléchir à isoler les bâtiments du chaud et du froid, et aussi si on utilise des fibres végétales et du bois, eh bien on peut stocker du CO2. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça nous permet de faire une peau de chagrin des gaz à effet de serre qui sont consommés et utilisés.
Bah merci beaucoup de nous délivrer ce message ce soir, alors que là, on a déjà épuisé les ressources de la planète il y a quelques jours.
Oui, oui absolument. Et
où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? Est-ce que EOUR a un site internet EOUR où on peut aller visiter?
EOUR a un site, mais c'est pas EOUR, comme je vous disais, c'est un village, donc c'est pas lui qui va. Mais par contre,
il y a des entrées différentes, voilà. Même si globalement il y a pas mal de gens qui testent l'autonomie, mais il y a pas mal de gens qui sont très différents, même si on est un petit village reculé.
Et comment on peut retrouver ces informations? Et après, alors, je suis obligée de vous laisser, malheureusement. Dites-nous tout.
Page Facebook. Notre page Facebook, c'est Assoleza Terre. Donc, l'ESA, c'est l'acronyme pour Lien, Enseignement, Sens et Autonomie. Ça, notre page Facebook est très active.
Et merci. Voilà. Et ben, merci beaucoup. On a noté. On va le mettre sur le Facebook de l'émission. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.
On a aussi écrit un livre sur ce sujet et on a fait une conférence gesticulée.
Alors, voilà. On ira voir Facebook. Et je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.